À Rabamako, à Ouagadougou et à Conakry. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. 5 ans après le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, les associations de défense des droits de l'homme dénoncent l'absence de justice. Que pensent les Burkinabés du dialogue direct entre l'opposition et la majorité ?
Pour moi, il n'est même plus question de discuter de quoi que ce soit avec le président Compaoré. Toutes les questions ont déjà été à l'ordre du jour.
Élément de réponse dans le reportage de notre correspondant Zoumana Wonogo. Timide succès de la planification familiale au Mali dans la région de Kaï. Nous entendrons la correspondance de Kassim Traoré. Enfin, rencontre avec la diaspora africaine qui se mobilise contre Ebola. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du président du Parlement nigérien, Ahmad Amadou, qui s'est enfui en août dans le cadre d'une enquête sur un trafic transfrontalier de bébés. Dans cette affaire de trafic présumé de bébés, 17 personnes, dont une de ses épouses, ont été écrouées, dont le ministre de l'Agriculture, Abdou Labo. Monsieur Amadou Ama affirme que ses poursuites ont pour but de l'écarter de la présidentielle de 2016. Le tribunal de grande instance de Bujumbura au Burundi a ordonné la libération provisoire de Pierre Claver Mbonimpa, un grand défenseur des droits de l'homme dans le pays. Il avait été condamné pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État pour avoir révélé des informations selon lesquelles des jeunes en tenue militaire s'entraînaient au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. À La Haye, début de l'audience aujourd'hui de confirmation des charges contre Charles Blegoudé. La Cour pénale internationale soupçonne l'Ivoirien de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. À l'issue de l'audience de confirmation des charges qui dure jusqu'à jeudi, les juges doivent décider si le dossier de l'accusation est assez solide pour justifier un procès. Une décision doit être rendue dans les 60 jours. La mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola ouvre un quartier général au Ghana, d'où elle va coordonner la réponse à l'épidémie qui continue de sévir en Afrique de l'Ouest. Jacques Aristide.
Le directeur de la mission, Anthony Banbury, et son équipe étaient attendus ce lundi à Accra, la capitale du Ghana. La mission onusienne cherchera à identifier les besoins les plus urgents pour répondre à la crise, surtout dans les 3 pays les plus durement touchés par le virus Ebola, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Elle s'assurera ensuite que l'aide disponible de l'équipement médical aux travailleurs de la santé sert à combler ses besoins. Pendant ce temps, les 3 000 soldats américains promis par le président Barack Obama ont commencé à être déployés sur le terrain. C'est le chef des troupes américaines en Afrique, AFRICOM, le major général Daryl Williams, qui dirige les opérations depuis un nouveau quartier général établi à Monrovia, au Libéria. La mission consiste notamment à renforcer la logistique, construire des centres de traitement et former des agents médicaux jusqu'à 500 par semaine. Une base de transit pour l'aide humanitaire a également été mise sur pied à Dakar, au Sénégal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les combats se sont poursuivis aujourd'hui entre les militants de l'État islamique et des milices locales kurdes dans le nord de la Syrie. La Turquie a renforcé sa présence militaire le long de la frontière et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, les frappes aériennes de la coalition ont atteint les positions de l'État islamique dans au moins 2 provinces syriennes, Alep et Raqqa, la nuit dernière. En Ukraine, de nouveaux affrontements ont eu lieu près de la ville de Donetsk ce lundi entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes. Le bilan officiel est de 12 morts au moins, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le début du mois. Selon un porte-parole militaire, 7 soldats ukrainiens sont morts près de l'aéroport de Donetsk, portant à 9 le nombre de victimes dans les rangs de l'armée ces dernières 24 heures. Et puis, les troupes américaines vont rester en Afghanistan au-delà de 2014. La signature d'un accord est prévue demain mardi, selon des officiels américains, avec le nouveau président afghan qui a été investi aujourd'hui. L'investiture a eu lieu au palais présidentiel à Kaboul, sous haute sécurité, en présence de délégués venus du monde entier. L'intronisation de Ghani Ghani a été accueillie par une nouvelle attaque. 4 personnes sont mortes à la suite d'un attentat suicide près de l'aéroport de Kaboul, qui a été aussitôt revendiqué par les talibans. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant à la suite de Sahel+. C'est avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la voie de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par la Guinée où c'était hier le 5e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Au moins 157 personnes avaient été tuées et plus d'une centaine de femmes violées en public. 5 ans après, Idriss Fall a joint Madame Amsouaou Diallo, présidente de l'Association des familles et amis de disparus à Conakry.
5 ans après, la justice n'est pas encore rendue totalement. On est jusque-là sur les auditions des victimes. Et après de 400 et quelques victimes qui ont été auditionnées, mais on n'a que 8 inculpations. Ce qui veut dire qu'on est encore loin de dire qu'on est vraiment satisfait. Il reste beaucoup de choses encore à faire.
Comment expliquez-vous cette sorte de lenteur?
De toute façon, on est en train de se battre et de bousculer pour que ça continue. 5 ans, quand même, c'est trop pour ce dossier. Le gouvernement avait dit qu'en 2013, c'était l'année de la justice. Et 2013 est passé sans rien. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de faire des commémorations. Et là, on se dit qu'il faut arrêter un peu les commémorations pour passer vraiment à l'acte concret. Passer devant la juridiction normalement, comme on l'attend, avec les coupables.
Ce jour-là, il y avait plus de 8 soldats au stade.
Absolument, absolument. Mais comme vous voyez qu'il n'y a que 8 inculpés, ce qui veut dire que ça n'a pas avancé comme nous l'attendons. Mais là, je peux dire que depuis l'arrivée du ministre Cheikh Sako, on a vraiment une impression que les choses vont bouger correctement parce que c'est un monsieur qui tient vraiment à faire avancer le dossier.
Pour rappel, le 28 septembre 2009, on parle de 157 morts et des femmes ont été violées en public.
Bien sûr, il y a ces femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont décédées suite au viol. La dernière qui est décédée tout récemment, il y a juste 2 mois, on a fait beaucoup de choses pour qu'elle vraiment puisse s'en sortir, mais ce n'était pas possible. Il y a les hommes aussi qui ont été poignardés, qui ont les traces de l'arme blanche qui a coupé leur corps là. Jusque-là, ces gens-là traînent ces plaies et il y a d'autres qui sont décédés suite de cela.
En attendant justice, est-ce qu'au moins le gouvernement aide, ne serait-ce que financièrement, accompagne ces victimes-là?
C'est un handicap au niveau du gouvernement parce que là, on ne parle même pas des victimes. C'est ce que je réclame tout le temps. Il faudrait que le gouvernement arrive à reconnaître les victimes du 28 septembre. Les femmes qui ont été violées. Aujourd'hui, ces femmes, il y a une grande partie qui ont été abandonnées par leur époux ou leur famille. Et grâce à l'appui du Haut Commissariat des droits de l'homme de Genève, qui nous accompagne vraiment pour pouvoir aider ces femmes. Plus d'une centaine de femmes qu'on a pu former dans des filières différentes pour leur réinsertion socio-économique, elles ont appris à faire la teinture, la saponification. On a même ouvert un salon de coiffure pour des femmes victimes, pour qu'elles puissent au moins s'occuper de ça en attendant une justice qui traîne. C'est des choses, vraiment, je peux dire que le gouvernement n'a pas fait face à ce moment.
Amsaou Diallo, présidente de l'Association des familles et amis de disparus à Conakry. Direction le Burkina Faso, sur invitation de Blaise Compaoré, l'opposition et la majorité présidentielle vont se retrouver une nouvelle fois autour d'une même table pour un dialogue direct afin de tenter de trouver une issue heureuse à la crise sociopolitique que traverse le pays. Mais que pensent les Burkinabés de ce dialogue? A-t-il des répercussions sur la cohésion de l'opposition? Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
La classe politique burkinabé est appelée depuis le 23 septembre par Blaise Compaoré à s'asseoir autour d'une table de négociation appelée cadre de dialogue politique. Alors, qu'en pensent les burkinabés?
Moi, c'est Jean-Jacques Raymond Traoré. Je pense que c'est peut-être une autre occasion encore pour le président du Faso de tromper en fait la vigilance de la population. On a bonne mémoire de beaucoup de cadres de discussion et de dialogue qui ont été initiés par le même président qui se sont soldés par des échecs. Je ne vois pas en quoi encore un autre cadre de dialogue pourra faire sortir en fait les deux camps de l'impasse. Le fond du problème, c'est l'article 37. Si aujourd'hui on ne touche pas à l'article 37, je pense qu'il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus de problème.
Jacques Lougué et Ismaël, nous encourageons toutes les parties à dialoguer dans le sens de la paix sociale. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de statuer sur l'article 37 et la question du référendum. Si les protagonistes ont l'idée de la question de la paix sociale au Burkina, c'est une très bonne chose. Mais éventuellement, mettre en priorité la question de l'article 37 et du référendum.
Joël Zondi, et pour moi, il n'est même plus question de discuter de quoi que ce soit avec le président Compaoré. Toutes les questions ont déjà été à l'ordre du jour, que ce soit avec le président Jean-Baptiste Ouédraogo, que lors des assises du CCRP. Donc, pour moi, il est inutile même d'aller discuter. Tous doivent être résolument tournés vers l'élection présidentielle de 2015, sans bien sûr le président Blaise Compaoré, dont le mandat arrive à terme en 2015. Parce qu'en 2015, il aurait fini ses deux mandats comme le prévoit la Constitution.
Il se dit de plus en plus que ce cadre de dialogue va aboutir à la formation d'un gouvernement de transition ouvert à l'opposition. Nous avons rencontré un analyste politique, Siaka Koulibaly. Voici sa lecture des enjeux d'un tel gouvernement pour l'opposition.
Le gouvernement d'ouverture pourrait être une solution d'apaisement, mais surtout de paix et de stabilité, permettant de préparer la période d'ici 2015 et surtout la période d'après avec beaucoup plus de sérénité. Mais cela n'est pas sans risque pour toutes les forces politiques. Certaines d'entre elles ne peuvent pas s'hasarder aujourd'hui à aller à un gouvernement d'ouverture parce qu'elles pourraient perdre toute leur crédibilité et toute leur base. Donc le dialogue politique qui vient de s'ouvrir comporte en même temps des enjeux de cohésion de l'opposition. Parce que, en fonction du rôle que les uns et les autres pourraient jouer, cela peut fragiliser la cohésion qu'on a vue jusque-là au sein de l'opposition. Il y a des forces politiques, des partis politiques au sein de l'opposition qui sont déjà favorables à rentrer dans un gouvernement d'ouverture. Et en ce moment, vous assisterez tout de suite à une fracture dans l'opposition parce qu'ils ne se retrouveront plus sur les mêmes thèmes. Donc ça va mélanger en quelque sorte la scène politique, en particulier au sein de l'opposition.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sel Plus sur La Voix de l'Amérique, 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Rubrique santé maintenant au Mali, alors que le taux de fécondité est l'un des plus élevés au monde, la planification familiale démarre peu à peu. À l'échelle nationale, le taux d'utilisation de contraceptifs est de 8%, mais dans la région de Kaye, il a dépassé les 10%. Des résultats rendus possibles grâce à l'implication de différents partenaires, mais surtout des populations de la localité de Gorikopelan. Pour elles, l'espacement des naissances est devenu l'une de leurs priorités. Kassim Traoré revient sur les résultats obtenus dans cette localité, dans la région de Kaye, au Mali.
C'est à la faveur du lancement de la campagne pour la planification familiale que la population de Gorikopelan se sont intéressées à cette pratique. Le temps a été donné par les femmes qui ne connaissaient rien dans la planification familiale.
J'ai entendu parler de la planification familiale avec d'autres femmes et à la radio. Elle permet d'espacer les naissances, de mettre à l'aise la maman, le papa et l'enfant qui grandit facilement. Pour moi, la planification est réservée aux femmes mariées qui ont des grossesses à rapprocher. La planification familiale signifie espacer les naissances. La maman aura moins de problèmes. Avec les naissances à rapprocher, impossible d'être quelqu'un de propre. Si tu arrives à espacer les naissances, les enfants se portent mieux et toute la famille s'épanouit.
Dans les districts sanitaires de cette localité, la prévalence contraceptive s'est améliorée de 6,1% en 2006. Elle est passée à 9,5% en 2013. Ces résultats encourageants s'expliquent par la multiplication des acteurs sur le terrain et à une forte implication des acteurs communautaires.
Ils ont vu l'impact que la planification familiale a eu dans la commune. Il y avait beaucoup de décès maternels et il y avait aussi des décès néonatales. Donc ils ont vu une nette amélioration à ce niveau. Les chefs religieux, ils sont beaucoup impliqués là-dedans. C'est pourquoi nous avons des résultats vraiment très encourageants.
Bien qu'ils aient que les autres pratiques, l'espacement de naissance n'est pas la seule recette de la planification familiale.
D'espacer les naissances au minimum 2 ans et maximum 5 ans. Ce n'est pas une limitation de naissance, c'est un espacement. Dans la planification familiale, il n'y a pas que espacer les naissances. Il y a le traitement des IST, VIH, SIDA et le traitement de l'infertilité également. Tout est pris en compte dans la planification familiale.
Cette année, dans la région de Kaye, la planification sera axée sur le redéploiement de la pratique en faveur des jeunes.
Nous voulons atteindre le maximum de jeunes dans cette campagne pour les sensibiliser sur les méfaits des avortements clandestins, les sensibiliser par rapport au dépistage volontaire sur le VIH-SIDA et les comportements responsables.
En termes de prévalence contraceptive, la région de Kaye était à 2,5% en 2010. Aujourd'hui, elle a passé à 10%. Cela grâce au concours des partenaires et la nouvelle stratégie mise en place, comme la formation, le suivi des partenaires dans les centres de santé communautaires. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
page culture pour terminer l'émission. La diaspora africaine dans la région de Washington aux États-Unis se mobilise aussi contre le virus Ebola. Un concert est organisé qui va réunir des artistes d'Afrique de l'Ouest. Le Malien Cheikh Amala Diabaté, 5-4-3-2-1-0. Le Malien Cheikh Amala Diabaté, la Congolaise Rafia ou encore le Camerounais Armand Ntep. Tous se produiront le 3 octobre prochain au Fillmore de Silver Spring, dans la banlieue nord de Washington. Pierre Tatou, l'un des organisateurs, explique les enjeux de l'événement.
C'est pour faire grandir l'attention que les gens portent sur Ebola et amener les Africains à être beaucoup plus impliqués. Donc c'est un peu ça le but du concert. Nous allons générer les sous qui iront à deux organismes internationaux qui travaillent sur place, Médecins Sans Frontières, International Medical Corps. Ce sont les bénéficiaires en fait du concert.
Quels sont les artistes impliqués dans ce mouvement?
Il y a un grand frère qu'on appelle Cheikh Amala avec son groupe qui sera présent. On a Dier Martins qui est d'ailleurs le host de l'événement du Nigeria. Nous avons Armand Ntep du Cameroun, nous avons Rafia du Congo, des Pi Brothers et Naomi Atiu, la liste elle est longue. Nous avons Tolomide, la liste elle est vraiment longue. Le concert a lieu dans Silver Spring, la salle c'est le Fillmore. La porte au Fillmore, elle s'ouvre à 19h et le concert va jusqu'à minuit.
C'est une œuvre humanitaire. Avant tout, sensibiliser l'opinion, vous avez un message?
Oui, en fait, nous demandons aux Africains de faire les choses bien pour l'Afrique. Parce qu'on ne va pas seulement attendre que Ebola vide le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée de sa population, que se lamenter, on aurait dû faire. Donc, il est temps pour nous, par exemple, ce concert, c'est trois compagnies. My Company à moi, qu'on appelle Tattoo Vibes, Sport and Entertainment. Route to Glory, qui est une compagnie qui fait dans la tracée des origines des Africains-Américains. Et Franco Records, qui est un label de musique. Nous nous sommes mis ensemble pour faire ce projet. Il faudrait que les Africains fassent pareil. Nous demandons à tous les Africains, que vous soyez où, que ce soit au Nigeria, au Cameroun, au Congo, en Afrique du Sud, au Maroc, soyons unis, disons non à Ebola, parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas à notre porte qu'il ne viendra pas chez nous.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la technique, Joe Gill. Au micro, Claire Moragibour. Nous nous quittons en musique avec le Malien Cheikh Amala Diabaté qui participera au concert contre le virus Ebola le 3 octobre prochain au Fillmore de Silver Spring. Il interprète ici Tagamba. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur la Voix de l'Amérique. Bonne soirée et bonne nuit à tous.